Nous voulons écouter la parole de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est parmi nous. Nous invitons maintenant la prédicatrice pour qu'il puisse nous relater de la part de Dieu. Bienvenue.
Prions le Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as aimés depuis les commencements et tu nous aimeras jusqu'à l'éternité. Tu nous connais depuis notre conception dans le ventre de nos mères. Tu nous as fait grandir et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à nous aimer. Et c'est pour cela que tu as amené mon frère, ma sœur, encore dans ta maison, pour que tu nous parles encore. Nous venons, Seigneur, de te louer, de te glorifier, de t'offrir, Seigneur, nos actions de grâce. Et nous venons aussi de te présenter nos problèmes, ce que nous traversons encore jusqu'à aujourd'hui. Et merci encore parce que pour le moment, tu veux nous parler. Nous implorons ta présence à ces lieux. Nous anéantissons toute puissance négative contraire à ta parole. Que tu règnes à ces lieux par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Eunike Katunguba Sambia. Je suis épouse du pasteur révérend, pasteur Mike Sibanza Tasi, qui est le responsable pasteur de la chapelle Sebeka Kituku. Et particulièrement, je suis maman, je suis épouse, maman de 3 enfants. Et dans la chapelle Sebeka Kituku, je ne suis pas seulement épouse des pasteurs, mais une des évangélistes et responsable de ministère d'intercession. Sur le plan professionnel, je suis professeur à la faculté de théologie. J'enseigne les cours du Nouveau Testament. Nous travaillons avec le professeur Moudero. Aujourd'hui, nous sommes là précisément, normalement, c'était pour lasser le mois de la mission, mais pour clôturer aussi la semaine de la célébration des droits de la femme. C'est pour cela que ma prédication sera double. Ce n'est pas une coïncidence, je pense, que Gomaville termine aujourd'hui la semaine, les enseignements sur la célébration des droits de la femme, mais aussi pour lasser le mois de la mission. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deux Rois chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 21. Deux Rois chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida, fille de Adaya, et était de Bossa. Il fit ce qui est agréable à Yahweh et imita à tout la conduite de son ancêtre David, sans à dévier ni à droite ni à gauche. À la 18e année du roi de Josias, le roi envoya le secrétaire Safan, fils d'Asayahou, fils de Machalam, au temple de Yahweh. « Monte, lui dit-il, chez le grand prêtre Hilkiyahou, pour qu'il fasse le compte de l'argent qui a été apporté au temple de Yahweh et que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple, qu'il le remette au maître d'œuvre attaché au temple de Yahweh et que ceci le dépense pour les ouvriers qui travaillent aux réparations dans le temple de Yahweh pour les charpentiers, des ouvriers du bâtiment, les maçons pour acheter le bois et les pierres de taille destinées à la réparation du temple. Mais qu'on ne leur demande pas compte de l'argent qui leur est remis, car ils agissent avec probité. Les grands prêtres Ilkiaou dit au secrétaire Shaphan, « J'ai trouvé les livres de la loi dans les temples de Yahweh. » Et Ilkiaou donna les livres à Shaphan qui les lut. Le secrétaire Shaphan vint chez le roi et lui rapporta ceci. « Des serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont remis au maître d'œuvre attaché au temple de Yahweh. » Puis le secrétaire Shaphan annonça au roi, « Le prêtre Ilkiaou m'a donné un livre et Shaphan les lut devant le roi. » En attendant les paroles contenues dans les livres de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Ilkiaou à Ikakam, fils de Shaphan, à Akabor, fils de Mikaya, au secrétaire Shaphan et à Asaya, ministre du roi. « Allez consulter Yahweh pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, à propos des paroles de ce livre qui vient d'être trouvé. Grande doit être la colère de Yahweh qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et pratiqua tout ce qui est écrit pour nous. Les prêtres Ilkiaou, Ahikam, Akbor, Shaphan, et Asaya se rendirent auprès de la prophétesse Hilda, femme de Shalim, fils de Tikva, fils de Ahas, le gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui exposèrent la chose, et elle lui répondit, « Ainsi parle Yahweh, Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle Yahweh, je vais amener les malheurs sur ces lieux. Et si ses habitants, tout ce que dit le livre qu'il a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont sacrifié à d'autres dieux pour m'irriter par leurs actions. Ma colère s'est enflammée contre ces lieux. Elle ne s'éteindra pas. Et vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter Yahweh, et si parle Yahweh, Dieu d'Israël, les paroles que tu as attendues. Mais parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Yahweh en entendant ce que j'ai prononcé contre ces lieux et ces habitats qui deviendront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi j'ai attendu l'oracle de Yahweh. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli à paix dans vos tombeaux. Tes yeux ne verront pas tous les malheurs que j'ai fait venir sur ces lieux. » Ils portèrent la réponse au roi, c'est la parole de Dieu. À travers ce passage, nous voulons parler du thème qui dit « Une femme disciple de Jésus proclame la vérité sans peur. » Alléluia les mamans, alléluia. Ah, bah là, c'est le main. Alléluia, les mamans, vous êtes un peu timides. Alléluia. Une femme et disciple de Jésus proclame la vérité sans peur. À travers ce passage, nous allons parler de trois vérités. Et après ces trois vérités, nous aurons terminé le message d'aujourd'hui. La première vérité, je devais demander à chacun d'avoir sa Bible, parce que nous tous, nous allons lire. La première vérité se trouve au verset premier, qui dit, « Josias avait 8 ans à son avènement, et il régna 30 ans et 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida, fille de Adaya, et était de Bossa. » Pour remarquer la vérité qui est ici, nous allons la remarquer ensemble. Je vais vous demander de parcourir rapidement les livres de 2 Rois. Nous lisons 2 Rois, chapitre 8. Nous sommes ensemble, je dis à chacun de prendre sa Bible. 2 Rois, chapitre 8, verset 26. 2 Rois, chapitre 8, verset 26. Il est dit, la 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Achozia, fils de Joram, devint roi de Juda. Ocosias avait 22 ans à son avènement et il régna un an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Nous lisons 2 rois 12, 1. 2 rois 12, 1. Joas avait 7 ans à son avènement. À la 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibia, était de Bersabée. Nous lisons 2 rois 14, 1 à 2. 2 rois 14 et à 2. À la 2e année de Joas, fils de Jokaz, roi d'Israël, Amasias de Joas devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement et régnant 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yehoda, était de Jérusalem. 2 rois 15 et à 2. 2 rois 15 et à 2. À la 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Ozias, fils d'Amasia, devint roi de Juda. Il avait 16 ans à son avènement et régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yekoliaou et était de Jérusalem. 2 rois 15, 32 à 33. 2 rois 15, je pense que vous avez de remarquer quelque chose. 2 rois 15, 32 à 33. Le verset 32. À la 2e année de Pekah, fils de Remaliaou, roi d'Israël, Yotan, fils d'Ozias, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement. Il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yerusha, fils de Sodak. 2 rois 18 et à 3. 2 rois 18 et à 3, il est dit, à la 3e année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akas, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zécharia. 2 rois 21-1. 2 rois 21-1. Manassé avait 12 ans à son avènement. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hepsiba. Là où nous sommes, c'est 2 rois 22. 1. Hein? Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida, fils de Adaya. 23-31. Joachaz avait 23 ans à son avènement et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamital, fils de Yirmeyahou. Et puis, 2 rois 23-36. Joachim avait 25 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébida, fille de Pédaïa. Le dernier, c'est ça le dernier passage, je crois. Non, non, il y a, même si nous n'allons pas lire, il y a aussi 2 rois, 23-31, 2 rois, 23-36, 2 rois, 24-18. Alléluia! Qu'est-ce que vous avez remarqué? À chaque fois qu'on donne le nom du roi, on donne aussi le nom de sa mère. Nous sommes dans la période de troubles après Salomon. Quand Salomon vient de mourir, il y a des rois qu'il faut introduire l'idolâtrie à Jérusalem, en Israël. Et les passages qui précèdent le chapitre 8, c'est Jézabel qui a introduit l'idolâtrie. C'est une femme. Alléluia. Et donc, quand l'auteur, à partir du chapitre 8, donne les noms du roi, et vous allez constater que tous ces rois ici ont commencé à régner à bas âge. 8 ans, 7 ans, 15 ans. Les plus âgés à presque 25 ans. Donc, tous sont des enfants, tous sont des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était leur mère qui régnait. Un enfant de 8 ans ne peut pas régner. Un enfant de 7 ans ne peut pas régner. Nous sommes dans une culture où le roi doit être remplacé par son fils. Quand le roi vient de mourir, automatiquement, ce doit être son fils qui doit être au trône. Même s'il est bébé de 2 ans, de 8 ans, de 7 ans. Mais qui règne, c'est sa mère. L'auteur veut nous dire ici une vérité. Une vérité, c'est que si les choses marchent, ça dépend de la mère. Si ça ne marchait pas, ça dépendait de la mère. C'est pour cela qu'il donne les noms des mères de tous ces rois. Tous ces rois. Alléluia, les mamans. Alléluia. Les mamans ont une grande influence. Les femmes ont une grande influence. Que ce soit sur leur époux, que ce soit sur leurs enfants. Une grande influence. Jézabel a tellement influencé Akaz. Et toutes ses mères ont influencé leurs enfants. Alléluia, les mamans. La vérité, donc, c'est que si notre pays ne marchait pas, la conclusion, c'est que c'est à cause des mamans. Ouais, c'est à cause des mamans. C'est ça la vérité. Parce que tous ces dirigeants ont des mères. Tous ces dirigeants ont des femmes. Et si vous regardez, si vous faites bien des analyses, vous trouverez que quelque part, toutes ces autorités, c'est leur mère. Si vous analysez bien, c'est la mère de quelqu'un qui est en train de diriger. Même si quelqu'un est à la présidence, peut-être, je ne dis pas, peut-être c'est sa mère qui donne toutes les décisions, tous les conseils. Parce que si une mère dit, tu vas faire ceci, tu vas nommer tel, pas tel, c'est tout. Alléluia, les mamans. Si le Congo ne marchait pas, la première vérité qu'on nous dit ici, c'est à cause de vous. Tous ces députés corrompus ont des mères. Ils ont aussi des épouses. Alléluia, les mamans. Ah, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous avons constaté ensemble, n'est-ce pas? Nous avons constaté ensemble, on donne les noms du roi, on donne précisément les noms de sa mère. Tous ces députés, ils sont passés par les mains des mères. Et donc, s'ils sont corrompus, c'est parce que leur mère n'avait pas assumé correctement leur rôle de mère, leur responsabilité. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Ah, aujourd'hui, nous sommes là pour vous taquiner épée. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que quand une mère se décide d'influencer, il influence. Ou pende ou si popende à qui j'ai décidé que ou tafanya ou tafanya. Si une mère se décide d'influencer, elle influence. Je donne un exemple. Si dans une maison, même un papa amène quelqu'un que vous n'aimez pas qu'elle soit là, elle ne vivra pas là. C'est ça? Elle ne vivra pas là. Si vous ne l'aimez pas, vous ferez tout. Même ça, parler, vos yeux seulement. La façon de regarder seulement. Elle va fuir. Elle va fuir. Même si vous ne dites rien, elle va fuir. Si vous dites, elle ne se restera pas ici, il ne va pas rester là, il va partir. Même dans votre façon de Yakupaku Lamboka. Ah, oui, oui, ça va se montrer. Si vous vous décidez de dire que je vais faire, la femme, quand elle se décide de dire qu'elle va faire, elle le fait. Elle s'impose. La femme sait s'imposer. Elle sait créer des stratégies pour influencer. Elle sait créer des stratégies pour influencer. Bref, si nous souffrons, c'est à cause des femmes. Oui. Si toutes les femmes, si toutes les mères de tous ces autorités se décident de changer leurs enfants, ils vont changer. Je ne mens pas. Si toutes les femmes du Congo, nous décidons de changer cette situation, ça va changer. Ça va changer. Parce que nous allons commencer dans nos maisons. Nous allons commencer auprès de nos maris. Nous allons commencer auprès de nos frères. Si nous nous décidons d'échanger. Cette situation, ça va changer. C'est la première vérité que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. Oui, oui, acclamez pour le Seigneur. La deuxième vérité, nous la lisons, le verset 10 jusqu'au verset 14. Verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais commencer au verset 11. En attendant les paroles contenues dans les livres de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Hilkiahou, à Hakim, fils de Safan, et à Asaïa, ministre du roi. Allez consulter Yahweh pour moi, pour les peuples et pour tout Juda à propos des paroles de ce livre qui vient d'être trouvé. Grande doit être la colère de Yahweh qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre en pratiquant tout ce qui est écrit pour nous. Dans cette portion, il y a une autre vérité que nous voulons proclamer, c'est que Dieu utilise tout le monde quand il veut et comme il veut. Nous sommes dans ce contexte où le roi Josias, il était en train de rebâtir le temple de Jérusalem, de faire la réforme, parce que le peuple venait d'amener même, il avait déjà amené des statues, même dans le temple de Jérusalem, il y avait même déjà les services de prostituées sacrées dans le temple de Jérusalem. Alors, le roi Josias est en train de faire la réforme du culte et de rebâtir les temples de Jérusalem. Et en faisant cette réforme et en reconstruisant les temples, ils ont découvert les livres écrits probablement, c'était le livre de la loi, écrits probablement par Moïse, selon la tradition. Et à la lecture de ces livres, Josias, après avoir découvert la parole qui est écrite dans ce livre et voir la situation, comment l'Israël était déjà ruiné, Israël était déjà tombé dans l'idolâtrie, il s'est dit, Dieu doit être en colère maintenant. Maintenant, il a vu le grand prêtre Hilkiahou et d'autres ministres pour aller consulter Yahweh. Mais la vérité qui est ici, Dieu ne se révèle pas au grand prêtre. Dieu ne se révèle pas au grand prêtre. Mais Dieu va se révéler à travers une femme appelée Hulda. Dieu ne se révèle pas au grand prêtre. Je peux comparer les grands prêtres à l'époque comme les représentants légaux. Ici, il y a les représentants suppléants. Mais à l'époque, les grands prêtres, je peux les comparer aux représentants légaux. Et que le roi, peut-être le président de la République, dit aux représentants légaux de consulter Yahweh à faveur d'Israël. Mais Dieu ne se révèle pas à travers les représentants légaux, mais il va se révéler à travers une femme qui n'est même pas très connue, Hulda. Une femme de quelqu'un qui travaille bien sûr à la présidence, mais dans un service qui n'est pas très loyal, parce qu'il était le gardien des vêtements, je ne vais pas parler de ça, mais j'insiste sur le fait que Dieu n'a pas vu le statut du grand prêtre, ni sa connaissance de la parole de Dieu, n'a pas vu qu'il est ouais pour parler de la part de Dieu. Dieu, il a décidé de se révéler, de mettre sa parole dans la bouche de Hilda. Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Je vais donner ici un témoignage. On m'avait parlé d'une paroisse, d'une église de la CEPAC de Bukavu. C'est un témoignage vrai. Nous sommes dans un milieu pentecôtiste. Maintenant, une de paroisse de CEPAC à Bukavu, Dieu a voix parce que dans leur tendance pentecôtiste, Dieu a voix quelqu'un, il vient annoncer la parole de Dieu, même à appeler culte. Maintenant, un jour, Dieu a voix. Un serviteur venir dire à cette paroisse de prier parce que un de leurs pasteurs va mourir, que le pasteur de la paroisse va mourir et qu'ils doivent prier pour que le pasteur ne meure pas parce que s'il meurt, l'église va connaître des difficultés au point de se diviser à deux. Maintenant, les chrétiens, comme nous, dans notre imagination, nous savons qui sont des pasteurs. Alléluia. Ils ont vu les pasteurs qu'ils connaissent comme des pasteurs de leur paroisse. Il y avait deux pasteurs. Mais Dieu a sa façon de voir. Ils ont prié pour leur pasteur qu'ils connaissaient. Les pasteurs, un se mettait ici et l'autre se mettait là-bas. Les deux pasteurs, ils ont prié pour les deux pasteurs. Croyez que c'est un de ces pasteurs dont parle Dieu. Mais à leur surprise, plus tard, il y a eu des problèmes dans cette paroisse au point que les deux pasteurs, un jour, ils s'étaient bagarrés à la chair. Kupigana Mangumi s'est bagarré à la chair. Et il y a eu schisme dans l'église. L'église s'est séparée à deux tendances. Maintenant, les chrétiens s'étaient rappelés de la prophétie en disant, mais on nous avait dit que le pasteur, quand le pasteur mourra, n'est-ce pas, qu'il y aura schisme dans l'église. Mais les pasteurs sont encore à vie. C'est là que Dieu va envoyer encore pour la deuxième fois la même personne pour aller dire à une de ses paroisses, parce que c'était déjà deux, que la prophétie était déjà accomplie. Que les pasteurs étaient déjà morts. Et cette pasteur, la pasteur, c'était une pasteur, c'était une maman, une vieille, misérable, n'est-ce pas, qui n'était pas connue de tous. Et pourtant, c'est par son ministère d'intercession. Elle priait jour et nuit pour cette église et celle qui était aux yeux de Dieu, la pasteur de cette église. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ses servantes, même dans l'ombre. Ce n'est pas parce que je suis ici, peut-être que Dieu me connaît. Ce n'est pas parce que tel est pasteur que peut-être il est connu comme pasteur devant Dieu. Mais peut-être il n'y a que toi que Dieu connaît comme pasteur. Et Dieu te parle. Et Dieu te donne du travail à faire pour cette église. T'y prie et Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des servantes de Dieu dans l'ombre. Nous ne les voyons pas. Et pourtant, ce sont deux qui portent l'église. Alléluia. Ce sont deux. S'ils ne prient pas, je ne vais pas me mettre ici. S'ils ne prient pas, les gens ne vont pas venir. S'il ne prie pas, il suffit que cette personne-là, Dieu la prend, c'est maintenant qu'on va constater. Il semble que les choses ne marchent plus. Alléluia. C'est la deuxième vérité. Dieu utilise tout le monde comme il veut et quand il veut. Chère maman, il ne faut pas te négliger. Cette femme-là, elle n'était pas connue dans l'église. Elle n'était pas connue. Mais Dieu la connaissait comme la pasteur de l'église. Et toi, Dieu te connaît comment? Dieu te connaît comment? Dieu connaît chacun de nous. Nous connaissons seulement les gens qui se mettent ici, mais Dieu vous connaît. Il vous connaît. Même si les autorités ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît ce que tu fais pour cette église. Alors tu dois continuer. Que Dieu te bénisse. La troisième vérité, et la dernière, nous la trouvons. Nous allons lire un verset. C'est le verset 16. Nous commençons au verset 14. Le prêtre Ilkiaou Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaïa se rendirent auprès de la prophétesse Hilda, femme de Shalum, fils de Tikva, fils de Arhas, les gardiens de vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui exposèrent la chose et elle leur répondit. Ainsi parle Yahweh, Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle Yahweh, je vais amener le malheur sur ces lieux et sur ses habitants. Tout ce que dit le livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont sacrifié à d'autres dieux pour m'irriter par leur action. C'est là qu'il y a notre thème qui dit « La femme disciple de Dieu dit la vérité sans peur. » Cette femme ici, même si elle était de bas classe, vous voyez la façon dont il s'adresse aux gens qui viennent chercher la parole de Dieu après, écouter la parole de Dieu auprès d'elle. Et si parle Yahweh, Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé. Dites à l'homme, il ne dit pas le roi, il ne dit pas son excellence, il ne dit pas mon Seigneur, il ne dit pas, il dit à l'homme, parce que devant Dieu, il n'y a pas de titre. Alléluia. Devant Dieu, il n'y a pas de titre. Quand vous commencez à vous imaginer les titres, vous risquez de ne pas dire la vérité. Quand vous voyez le statut des gens, vous risquez de ne pas dire la vérité. Et l'autre vérité qui est choquante, elle dit en disant, et si parle le Seigneur, je vais amener les malheurs sur ces lieux. La vérité, c'est quoi? Josias était en train de faire la réforme du temple, du culte. Il était en train de réparer les fautes, les péchés du peuple. Il était en train de reconstruire le temple. Mais la vérité que dit cette femme, c'est que même si vous réparez, même si tu es en train de faire la réforme, même si tu es en train de t'humilier devant Dieu, mais le jugement de Dieu est déjà scellé. Le jugement de Dieu est déjà scellé. C'est déjà trop tard. Les malheurs prévus, la conséquence prévue contre l'idolâtrie doit arriver. La vérité, c'est que il y a des choses, si nous ne les faisons pas avant le temps, même si on pourra réparer après, les conséquences arriveront. Telle est la vérité qui est ici. Même si on fait la réforme, même si on se répand, même si c'est avec retard, les conséquences vont arriver. Pour nous interpeller de dire la vérité à temps, pour nous interpeller d'agir à temps. Alléluia. Pour nous interpeller d'agir à temps. Il y a des gens qui se disent, peut-être tu es une maman, ton mari est tellement compliqué et tu as peur de lui dire la vérité aujourd'hui. Toi, tu attends le jour qui sera posé. Peut-être qu'il sera posé d'éternité dans la tombe. Tu attends que ton fils soit posé pour tourner sur lui parce qu'il vient chaque jour la nuit. Dans ce moment, tu as quelque chose. Tena kesho inapita, siku moja hata rudiaka, il y a un jour qui ne reviendra pas. On viendra te dire tout simplement d'aller prendre les cadavres. Il y a des choses que si nous ne les faisons pas à temps, les conséquences, nous allons les vivre. Il y a des choses que si nous ne faisons pas à temps pour notre pays, les enfants vont subir des conséquences. Même s'ils seront en train de réparer, mais ils vont subir les conséquences. Il y a des choses que si nous ne faisons pas à temps dans nos maisons, dans l'église, vous voyez quelque chose et vous avez peur de le dire parce que vous attendez le temps de Dieu. Comment vous saurez le temps de Dieu? Il y a des choses que j'écoute dans l'église. Nous attendons le temps de Dieu. Nous attendons le temps de Dieu. Nous attendons le temps de Dieu là. Comment on saura que c'est l'état de Dieu? Comment? On saura que c'est maintenant hein, l'état de Dieu. Comment? Même dans votre maison. Même ici, peut-être qu'il y a des choses que vous voyez, mais vous avez peur. Et vous dites que bon, nous attendons peut-être que le mandat de tel se termine, n'est-ce pas? N'angoa quand le mandat yaba ichenjon dans ses marques. Na engini takui takua ville ville et tout. La dernière vérité, ça nous introduit donc dans le temps de la mission. Il y a le temps de proclamer la parole de Dieu. Il y a le temps d'agir. La CBK a échoué missionnaire à Kinshasa, à Kampala, en Ouganda, Kisangani, Lubumbashi, Maniema, et vous pouvez vous dire que là aussi il y a des églises. Oui, bien sûr, il y a des églises, mais ce n'est pas pour rien que Dieu nous a demandé aussi d'aller proclamer la parole de Dieu là-bas. Parce que le champ est vaste. Si nous ne proclamons pas la parole de Dieu maintenant là-bas, il y a une âme qui sera en train de mourir et cette âme sera perdue éternellement. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, il y a les hommes qui seront en train de se perdre éternellement. Éternellement. Nous devons agir. Il y a le moment d'agir. Il y a le temps d'agir. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous allons prier pour toutes les mamans, que Dieu leur donne la force de réaliser que si notre pays est comme il est, c'est à cause des mamans. Que Dieu aide les mamans à savoir dire la vérité quand il est faux et au moment qu'il est faux. Nous allons en particulier aussi prier pour tous les responsables de toutes ces chapelles dans les champs missionnaires de la CBK. Que Dieu leur donne la force. Mais toi aussi, tu vas prier pour que tu contribues à l'évangélisation, à la proclamation de la parole, parce que toi, tu n'auras pas les moyens ou bien l'occasion d'y arriver, mais par tes moyens, par ton argent, tu vas y arriver. Ton argent que tu vas donner, si c'est 1000 francs, 2000 francs, va sauver une âme. Va sauver une âme. Maintenant ou demain, pour que cette âme ne se perde pas éternellement. Nous allons demander au révérend pasteur Joshua de venir prier. Et les mamans, par humilité, nous allons nous mettre à genoux.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu as envoyé ta servante pour nous parler. Cette parole que nous venons d'écouter nous interpelle parce qu'elle nous montre que les mamans ont un rôle à jouer dans la vie de l'Église, un grand rôle à jouer dans la vie d'une nation à cause de la force et la puissance que tu leur as accordé, Seigneur, d'être capable d'influencer leurs maris, leurs enfants pour que les choses changent positivement. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres aussi que la mère a une grande force pour influencer la vie dans sa famille aussi. Nous voulons te recommander toutes les mamans qui sont ici. Elles ont besoin d'une touche particulière de ta grâce. Elles ont besoin d'être touchées par toi. Elles ont besoin d'être utilisées par toi. Elles ont besoin de recevoir la force de l'Esprit de toi, Seigneur, ici et maintenant. Nous voulons, Seigneur, les recommander à toi pour que tu interviennes maintenant dans la vie de chacune d'entre elles, afin qu'elles soient capables d'influencer maintenant et ne pas attendre demain ou après-demain. Parce que sinon, les conséquences, si ce n'est pas elles qui vont les vivre, ce sont les générations qui viennent d'elles qui vont les vivre plus tard. Nous avons besoin de ta main puissante pour nous toucher. Parce que si les mères doivent influencer, elles doivent influencer aussi leurs enfants, leurs fils, leurs maris aussi. Nous prions pour les hommes qui sont ici. Nous prions pour les garçons qui sont ici. Accepte, Seigneur, de rendre leur cœur disposé à recevoir les coups de l'influence qui vient de leur mère, de ceux-là qui sont à côté d'elle, de leur femme. Seigneur, nous voulons te demander d'agir maintenant pour que les mamans qui sont parmi nous et nous les hommes qui sont ici soyons capables de recevoir l'influence et d'agir maintenant et de ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, parce que si nous le faisons, il y a des choses qui ne vont pas marcher et nous allons en souffrir nous-mêmes. Parfois, nous ne savons pas quoi te demander, mais nous savons que toi, tu écoutes mieux que nous ce que nous exprimons. Disons merci parce que le Saint-Esprit est là aussi pour interpréter par des soupirs inexprimables ce que nous avons le désir de te demander, ô notre Dieu. Merci parce que tu écoutes, merci parce que tu agis. Mais c'est parce que nous allons voir cela intervenir et se réaliser dans notre vie à partir de maintenant. Nous te l'avons ainsi demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Acclamons le Seigneur. Le royaume de Dieu est parmi nous. Allô les mamans.